Ok, ce matin, je vous propose de continuer, alors de reprendre en fait l'étude suivie qu'on avait de l'Épître aux Romains. Alors si vous vous rappelez un petit peu avant les vacances, on avait étudié ensemble les 11 premiers chapitres de cette Épître, donc on avait arrêté pendant l'été. C'est la rentrée, donc on reprend nos bonnes résolutions. Et donc, on continue avec le chapitre 12. Donc, le chapitre 12, on arrive en fait à un tournant dans l'Épître. Les 11 premiers chapitres ont été consacrés à établir, d'accord? Paul a établi la justification par la grâce, sans l'œuvre de la loi. Et donc, pose ce fondement de la relation à Dieu, une théologie de la grâce, une théologie fondée sur le Christ, fondée sur son sacrifice pour nous et sur cet extraordinaire amour de Dieu manifesté pour nous. Et donc, à partir de ce chapitre 12, Paul va développer, eh bien, les conséquences de cette théologie, les conséquences pratiques dans eh bien, notre vie, alors notre vie dans notre relation à Dieu, dans notre relation avec nos frères et sœurs dans l'Église, et plus généralement notre relation avec le monde qui nous entoure. Donc c'est de la théologie pratique. Et souvent, quand on pense à ce que l'Église peut dire sur la façon de se comporter, sur la façon de vivre, on peut avoir cette impression que la vie chrétienne, finalement, c'est une série d'injonctions, une série d'interdictions. Que c'est une série de condamnations de la différence, une imposition d'une conformité à une norme. Et en fait, on va voir dans ce chapitre que la vie chrétienne, c'est pas ça du tout, en fait. Que la vie chrétienne, c'est beaucoup plus une remise en question de notre propre façon de fonctionner. Et aussi des défis qui nous sont proposés, des défis que le Seigneur place devant nous pour que nous décidions de les relever. Alors je vais découper ce chapitre 12 en quatre parties. On va les lire et puis progresser comme ça dans le chapitre. Donc je vous propose d'abord de commencer par lire les deux premiers versets. Donc je vais lire dans la traduction du Semeur, merci Gilles. Donc je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La première chose qu'on peut constater en lisant ces deux versets, c'est que d'abord, donc, cette vie pratique avec Dieu, eh bien, elle découle complètement de la théologie. Elle découle de cet amour de Dieu manifesté en Christ, cette immense bonté de Dieu, qui est la source de la vie que nous allons mener. Il ne s'agit pas de séparer ces deux parties-là. Elles sont complètement entremêlées. Et ce que nous pouvons accomplir est complètement lié à ce que, d'une part, Dieu a accompli pour nous, et d'autre part, à la relation que nous avons avec ce Dieu. Et cette relation qui est d'abord une relation de reconnaissance et une relation d'amour. Ensuite, donc, ce verset, alors évidemment, donc, tout ce que je vais, à chaque, enfin, c'est, je vais répéter ça, mais il y a, dans tout ce qu'on va lire, en fait, c'est des versets pour la plupart d'entre nous, que nous connaissons bien. Vous allez voir, on va lire un verset que Anne-Marie a cité dans sa prière. Ce sont des versets qui sont partie prenante de notre relation à Dieu. Et donc, en particulier, ce verset qui nous dit « Donc, je vous invite à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. » Alors, une autre façon de traduire, c'est un culte raisonnable. Donc, offrir nos corps en sacrifice. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, hein, comme formulation. Le corps, dans la Bible, hein, c'est un mot qui revêt différentes notions, différentes réalités. Donc, évidemment, on peut penser à notre corps physique. Et là, on comprend bien que ce n'est pas de ce corps-là dont il est question. Hein. Les chrétiens ne se sont jamais auto-immolés pour plaire à Dieu. Hein. C'est évidemment une idée qui n'a pas de place. Ici, le corps dont il est question, eh bien, c'est le corps social. C'est ce qui nous met en relation avec les autres, ce qui nous permet d'agir dans notre société, autant matériellement que relationnellement. D'accord ? C'est ce corps-là dont il est question. Et ce corps, cette action, cette vie dans la société, eh bien, ce texte nous dit, offrez-le en sacrifice à Dieu, et ce sera de votre part un culte spirituel raisonnable. Alors, ce culte dont il est question ici, alors là aussi, dans la Bible, le mot culte, ça peut d'abord faire référence au rituel, hein, qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Le sacrifice, hein, évidemment, c'est une notion qui est complètement liée à la relation à Dieu que les Juifs avaient au Temple, hein, où ils apportaient un sacrifice pour différentes occasions, différents motifs. Et donc ici, il s'agit d'un culte spirituel. Donc pas un culte rituel, mais un culte basé sur... sur notre esprit, sur notre relation à Dieu, ce qui fait intervenir notre volonté, notre intelligence, voir si on traduit effectivement par raisonnable, par notre logique, simplement parce que dans notre relation à Dieu, eh bien, c'est la bonne façon d'être en relation avec lui, et cette relation, c'est de lui donner. De lui donner, non pas une partie, non pas une partie. Il ne s'agit pas, on voit bien là, la différence qu'il pourrait y avoir avec une relation légaliste à Dieu, où je vais lui donner, je vais lui donner des temps de prière, je vais lui donner des temps dans la semaine, je vais lui donner de l'argent, je vais lui donner voilà, une partie de ce que j'ai, je vais la lui donner. Ici, il ne s'agit pas de donner une partie, il s'agit de tout donner. Vous voyez, on comprend bien finalement que la relation à Dieu qui est basée sur la grâce est une relation qui implique beaucoup plus qu'une relation basée sur la loi. La relation basée sur la loi, c'est de dire je vais extraire de ma vie des morceaux à donner. La relation basée sur la grâce, c'est je vais donner toute ma vie. Évidemment, donc ça, on peut penser à faire un parallèle avec cette notion de la mort à soi-même. D'accord ? Cette idée qu'à un moment donné, je vais renoncer à vivre seul, à vivre tout seul, pour moi. C'est ça la mort à soi-même. Hein ? Le fait de porter sa croix. Comme le Christ l'a porté, il a renoncé à sa vie pour la donner. Eh bien, ce texte nous dit, c'est ça la bonne façon d'être en relation avec Dieu. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais modelez le monde comme Dieu le voudrait. Est-ce que c'est ça qui est écrit ? Non, C'est pas ça qui est écrit. Il n'est pas écrit « Ne vous laissez pas modeler, alors modelez les autres ». Il est écrit « Ne vous laissez pas modeler, mais laissez-vous transformer ». C'est vous qui devez être transformé. Le monde veut vous transformer. D'accord ? Le monde a des valeurs. Alors quand on dit le monde, alors je traduis, hein, parce que pour dans le vocabulaire évangélique, c'est clair, hein, le monde, c'est ce qui s'oppose à Dieu. C'est la communauté de ceux qui ne suivent pas Dieu. Voilà. Et qui donc, par nature, vont s'opposer à lui. Même si, évidemment, on le voit autour de nous, hein, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais dans cette façon de voir la réalité, eh bien, il y a deux royaumes qui s'opposent. Un royaume qui s'attache à suivre Dieu et un royaume qui l'ignore. Ou même s'oppose à lui. Ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous transformer. Donc là, il s'agit bien d'une exhortation à vivre différemment. À vivre avec un autre regard. Hein? Véronique, hein, tu as prié pour que Dieu nous donne un autre regard, une autre façon de regarder, de se regarder nous-mêmes, de regarder les autres. Un autre regard, une autre pensée, une autre façon de penser. Et autant ce texte ne nous dit pas de changer les autres. Moi, je suis souvent attristé, en fait, de voir combien les chrétiens ont facilement cette volonté. Alors, je dirais pas trop en France, hein, ça nous vient plutôt des États-Unis, cette façon de voir. Bon, on peut penser aussi quand même à l'histoire de notre Europe, bon, où quand même pendant très longtemps c'est l'Église qui a dicté la morale publique. Mais donc cette façon, enfin, de vouloir faire que le monde soit, voilà, qu'on impose au monde la façon de voir de Dieu. Ce texte ne nous dit pas de faire ça. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est impossible. C'est impossible. La seule façon de regarder comme Dieu regarde, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir son esprit en nous. Ça ne vient pas de nous, hein. Ça ne vient pas de nous. Hein. Donc vouloir imposer un regard sans que l'esprit soit présent, je pense que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et on fait plus de mal, finalement, que de bien. Ici, laissez-vous transformer pour que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Discerner. Alors là, on voit bien, on a dit, hein, que ce culte spirituel, c'était un culte qui faisait intervenir notre volonté, notre intelligence, notre raison. Et là, Paul nous dit, vous devez apprendre à discerner la volonté de Dieu. Là encore, ça fait intervenir notre intelligence, ça fait intervenir aussi notre responsabilité. C'est à nous de regarder de la bonne façon et de chercher la volonté de Dieu dans ce que nous accomplissons. Ces deux premiers versets, c'est le résumé finalement de la vie pratique du chrétien. Et finalement tout le reste va être une espèce de description de ce que ça veut dire que de donner son corps en sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que de discerner ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et là, on voit bien que autant le salut est une action de Dieu seul. On ne participe pas à ce salut-là. Il nous est donné par grâce. Le Christ est mort à notre place. On n'a rien à ajouter à ça. On n'a rien à ajouter, on n'a qu'à le recevoir. Autant dans cette marche avec Dieu, on voit bien que la volonté de Dieu est devant nous et que c'est notre responsabilité que de la rechercher et de la mettre en pratique. Dans cette marche, nous marchons ensemble. Dieu ne nous demande pas de... Dieu nous laisse tellement libres. Dieu nous laisse tellement libres de choisir, de réfléchir, de mettre notre corps, notre volonté en marche avec lui. À aucun moment il ne nous l'impose, mais il nous encourage à avancer avec lui. Alors qu'on sache aussi témoigner de cette liberté que Dieu nous donne et que dans laquelle Dieu veut qu'on avance. Et je pense que c'est, pour moi, en tout cas, c'est une, voilà, je suis attaché à cette liberté. Je voudrais pas à aucun moment l'enlever à quelqu'un d'autre. Donc on continue avec donc au verset, à partir du verset 3, et je vais lire jusqu'au verset 8. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé, par grâce, des dons différents. L'un pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour l'autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Bon, cette image du corps, c'est une image que Paul va reprendre dans Corinthiens. Et on voit dans ce passage que Paul va faire une liste. Alors une liste de dons, une liste de ministères. Donc un ministère, c'est un service, d'accord. Et puis aussi une liste d'attitudes qui accompagnent ces dons et ces services. Et la première chose qui est mise en avant dans ce texte-là, c'est que, il y a des différences. Il existe des différences dans le corps. Et nous savons bien que dans notre propre corps physique, il y a des organes qui n'ont pas la même fonction, qui sont complémentaires les uns des autres, et qui sont nécessaires, chacun pour sa part, à la vie du corps, tout simplement. Et Paul nous dit, donc il y a des séparations, des différences entre ces différents organes, n'allez pas au-delà de ces limites. Vous avez un rôle à jouer, vous avez un service à accomplir, accomplissez ce service sans aller au-delà. Et pour reprendre cette image du corps, on sait bien qu'est-ce qui se passe quand un organe décide de prendre toute la place, de croître sans pouvoir s'arrêter. On sait ce que c'est et à quoi ça aboutit. Et là, Paul nous dit, bien voilà, il y a une séparation, il y a un discernement à avoir sur les limites et la place que chacun doit occuper. Une séparation, donc, et en même temps, une unité. Une unité en Christ, d'accord ? Une unité de but. La direction est la même. C'est pour ça que j'avais envie de chanter ce chant sur le fleuve de Dieu. Parce que dans un fleuve, il y a une direction. Quand on navigue sur un fleuve, ben, il y a un courant qui va quelque part. Vous voyez, dans la mer, tu peux tourner en rond, aller dans un sens, à droite, à gauche, bon, tu fais ce que tu veux. Dans le fleuve de Dieu, eh bien, alors, le fleuve de Dieu, ça fait référence à un texte dans l'Apocalypse, hein, ce fleuve qui coule du trône de Dieu, hein, en fait, donc ça vient de Dieu. On pourrait même penser que ça revient à Dieu. Mais c'est Dieu qui donne la direction. Et dans cette description de la vie chrétienne, on le voit bien, c'est Dieu qui donne la direction. On a une grande liberté, mais elle est... alors, elle est encadrée, elle est dirigée. Elle est dirigée selon notre foi. Cette foi qui nous est donnée. Hein, ce mot foi revient deux fois dans ce passage. D'accord ? La première fois, donc, chacun selon la part que Dieu lui a donnée, selon son œuvre, régit par la foi. Une autre foi, c'est pour la prophétie qu'il accomplisse, donc qu'il mette en œuvre son don, mais selon, alors que je retrouve exactement selon, voilà, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Même la prophétie qui est il y a différentes façons de le comprendre, mais quand même, c'est apporter de la part de Dieu un message, une explication concrète, etc. Donc, eh bien, même cette action qui revêt une grande autorité, quand même, eh bien, cet exercice se fait selon la foi qui nous est commune, cette foi qui nous est donnée, donc plus qu'une foi subjective que nous recevons. Là, il s'agit plus d'une foi qui nous est donnée, et cette foi qui nous est donnée, eh bien, c'est la foi dans le Christ ressuscité. C'est une foi qui nous conduit, qui nous montre un chemin. Donc cette différence et en même temps cette unité. En lisant cela, moi ça me faisait penser finalement que ce que le monde nous propose est, je le dirais comme ça, mais est l'exact opposé. C'est-à-dire le monde nous propose de tous nous homogénéiser, d'être tous pareils. Dans tous les domaines, finalement, tous pareils, plus d'hommes, plus de femmes. Et au bout du compte, on homogénéise, tout le monde est le même, et en même temps, tout le monde s'oppose à tout le monde. C'est tous contre tous. Ceux qui ont contre ceux qui n'ont pas. Je trouvais qu'il y avait quand même cette deux façons de penser, deux façons de penser vraiment, vraiment différentes. Dieu se sert de nos différences pour nous faire accomplir quelque chose ensemble. Que ça reste une richesse pour nous. Une deuxième chose qu'on peut remarquer dans cette liste, c'est qu'il n'y a pas d'hiérarchie. Il n'y a pas d'hiérarchie. Il n'y a pas... Alors... Il n'y a pas un pasteur ou un évêque ou ce que vous voulez, ou un pape éventuellement, qui serait tout en haut. Et puis en dessous, d'autres services un peu moins... Et puis ensuite, dessous, bon, le peuple. C'est pas comme ça que c'est présenté. Souvent dans les églises, effectivement, hein, la façon de fonctionner de beaucoup d'églises, c'est un qui fait tout et plein qui font rien. Bon, ça vient facilement, ce genre de fonctionnement. Voilà. Là, Paul nous dit, mais non, chacun a un rôle, une part à jouer. Et il y en a pas un qui serait comme ça. Et on est tous dans le même service, dans le même corps, chacun jouant son rôle, ayant sa propre dignité. Et personne n'est laissé de côté, personne n'a rien à donner, personne n'a rien à recevoir parce qu'il aurait tout. On a tous besoin de ce que les uns et les autres peuvent apporter. Donc pas de hiérarchie. Et en même temps, donc cet appel à l'humilité, hein, ne soyez pas prétentieux. Ne pensez pas que vous pouvez occuper toute la place. Ne soyez pas prétentieux. Commencez par il s'agit d'ailleurs même pas tellement de l'idée de rester à sa place et dans sa petite boîte. Il s'agit surtout de laisser de la place aux autres. De laisser de la place aux autres parce que je comprends quelle est la mienne de place, quel est mon rôle. Il ne s'agit pas de cloisonner les gens et de les empêcher d'agir ou de donner, mais il s'agit de laisser de la place aux autres pour que chacun puisse justement participer et apporter. Ensuite, il y a toute une liste, il y a aussi une liste d'attitudes. Alors, au bout du compte, on voit que la liste qui est faite, on voit bien que ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Les termes peuvent être plus ou moins... disons large en fait, hein. Par exemple, il parlait du service. Bon, le service, c'est voilà, il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur le service. Ensuite, il fait des listes en disant que celui qui enseigne. Bon, on sent bien que Paul utilise une fa... enfin voilà, cette façon de lister les choses, c'est pour nous montrer qu'il y a plein de façons différentes d'accomplir ce que le Seigneur attend de nous dans l'Église. Et donc les caractéristiques de la façon de servir, on peut retrouver d'abord une première façon de servir, enfin une première caractéristique dans ce service, c'est la consécration et le sérieux. Il ne s'agit pas de faire comme si l'Église était un club supplémentaire dans lequel on investit un petit peu. Bon, et on peut plus ou moins traiter par-dessus la jambe, ce qu'il y a à faire dedans, parce que, ma foi, c'est secondaire. Paul nous dit, non, quand vous servez le Seigneur, faites-le de tout votre cœur. Faites-le avec en vous y consacrant, en y mettant votre énergie, votre intelligence, votre affect, Faites-le avec sérieux. Et ensuite, faites-le, alors, sans arrière-pensée et avec joie. Sans arrière-pensée, parce que si j'ai renoncé à ma vie, si je choisis de servir pour donner, je ne viens pas pour récupérer un avantage sur le côté. Même si, on le sait bien, quand on donne quelque chose, on en retire aussi, bien sûr. Mais là, il s'agit simplement de le faire sans hypocrisie, sans chercher à manipuler ou à se servir des autres. Faites-le avec joie. Avec joie, il ne s'agit pas de c'est pas une contrainte. C'est pas quelque chose qu'on vous met sur les épaules. Et que vous êtes obligé d'accomplir parce que sinon, je ne sais pas, vous n'êtes pas accepté dans la communauté, sinon, voilà. Et donc on se retrouve à avoir des images dans ma tête, j'ai des tableaux de peintres hollandais avec des gens très sérieux, avec des cols remontés jusque-là, tout en noir. Bon, on se dit, ouf, c'est pas... Bon, personne ici a un chapeau habillé en noir, donc bon... Ça va, mais il n'empêche que l'idée, c'est quand même qu'on participe à quelque chose de merveilleux que Dieu nous propose. C'est pas un fardeau que nous avons à traîner. Donc voilà, cette joie qui accompagne le vrai service, parce que je donne parce que j'ai reçu. Voilà. Je continue à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur. N'hésitez pas. L'esprit. Soyez bouillant. Le Seigneur. Soyez-en de bons serviteurs. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Haïr le mal. Haïr le mal et attachez-vous de toutes vos forces au bien. Paul utilise des mots qui sont quand même très fort. Haïr, s'attacher de toutes ses forces. Ce que Paul décrit là, c'est pas, alors pour reprendre, c'est pas un long fleuve tranquille, d'accord ? Ce fleuve de Dieu, il brasse un peu quand même, hein ? Et le combat que Dieu nous propose, c'est un combat. Il y a une énergie mise à rejeter ce qui est mal et une énergie mise à chercher ce qui est bien. Et c'est pas tranquillou bidou quoi. Faut y aller vraiment. C'est ce que nous dit ce texte. Et alors, chacun, en lisant cette liste, encore une fois, sur l'amour, l'estime, la prière, l'ardeur, etc., chacun peut voir dans sa vie ce que ça représente et comment ça s'articule. Bon, on voit bien qu'il y a une part de relation aux autres, hein, qui repose sur un don de soi, encore une fois. Dans l'engagement à être avec les autres, il faut accepter de se donner. Et dans la relation à Dieu, ce qui je trouve revient le plus, en fait, c'est l'engagement total. C'est l'énergie qui est mise dans cette relation. Soyez bouillant, engagez-vous à fond, sans tiédeur. Soyez complètement là-dedans. Alors, voilà, ça nous donne une définition, finalement, de ce qui est bien, et puis de ce qui est mal. Et donc, dans ce passage, il se termine, encore une fois, par un appel à l'humilité. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. Vous voyez, la considération que nous avons les uns pour les autres, elle est indépendante de notre service, de notre statut social, de notre sexe, de notre... Bref, vous nommez ce que vous voulez. La considération est égale. Le respect dû à chacun, la valeur donnée à chacun d'entre nous, elle est égale. Personne serait au-dessus des autres. Et pourtant, ce qui est étonnant dans ce passage, c'est qu'on continue en disant « Ne visez pas ce qui est trop haut ». En lisant ça, je me suis dit il nous dit ça comme Jésus disait il y a des lois qui vous ont été données parce que votre cœur est dur. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Si vous voyez quelqu'un qui est au-dessus, alors déjà, peut-être, c'est que vous voyez mal. D'accord, hein, si vous levez trop les yeux, c'est que peut-être vous... Bon. Donc, si vraiment vous faites une hiérarchie comme ça, entre les uns et les autres, Alors, visez plutôt vers le bas. Visez, voilà, visez ce qui est humble. D'accord? Ce qui probablement n'a pas de prestige. Parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas le prestige. Ce que vous cherchez, c'est à servir. Et recherchez donc, recherchez la sagesse. Mais ne vous prenez pas pour des sages. Donc recherchez la sagesse, hein, c'est ce qui est dit au tout début, donc au verset 3. Hein, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Vous devez être sage dans votre rapport aux autres pour savoir où vous êtes. Le passage précédent, c'était rechercher ce qui est parfait. Mais il y a une recherche de perception, de perfection, pardon, une recherche de ce qui est parfait. Et Jésus nous dit aussi ça. Hein. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, bien sûr, alors nous cherchons la perfection. Et en même temps, nous savons que nous ne l'avons pas. Nous cherchons la sagesse, mais on comprend bien que cette sagesse, on ne la possède pas complètement. Ça veut dire qu'on est dans une perpétuelle insatisfaction. Mais insatisfaction par rapport à ce que nous sommes. Parce qu'on voit bien que notre objectif, c'est d'être semblable au Christ. Et on n'y est pas. On n'y est pas. Pourtant, on marche vers lui. Il ne s'agit pas de se contenter d'être médiocre, finalement. De se contenter de nos petits péchés, voilà, des petits trucs bien qu'on arrive à faire, etc. Le Seigneur nous propose un chemin où la norme, c'est la perfection. Et puis la sienne de perfection. Pas la nôtre. Et pourtant, ayez bien conscience que vous n'y êtes pas. Ça fait une tension, mais c'est ça aussi qui nous met en marche. Et je termine donc avec les derniers versets, donc les versets 17 à 21. Ne répondez pas au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que cela est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est à moi qui rendrai à chacun selon son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. » Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Il y a un mot qui revient deux fois là-dedans, c'est jamais. Ne t'abandonne jamais au mal. Jamais. Ce texte nous parle de la paix. J'ai envie de dire, il ne nous met pas un fardeau trop grand sur les épaules quand même. Hein, vous voyez que la paix, c'est quelque chose qui se porte à deux. Et quand il y en a un des deux qui ne veut pas le porter, bon, on n'arrive pas à aller très loin. Malgré tout, ce texte nous encourage à être toujours prêts à porter notre côté. Toujours prêts à porter ce qui nous revient de cette paix. Ce texte nous dit de rejeter la solution, donc la réponse du mal, enfin la réponse au mal par le mal. De rejeter cette solution-là, de rejeter la vengeance, de rejeter la violence. Et je trouve, alors, il me semble que notre actualité nous donne un exemple particulièrement cruel, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça fait quand on répond au mal par le mal, Bon, vous savez tous qu'on est, enfin, que, on arrive au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Donc, tout le monde a pu constater le mal qui avait été commis. Et depuis 20 ans, on a pu constater quelle est la conséquence de, eh bien, quand on répond à la violence, ben, par la violence, eh bien, voilà, donc, à quelques milliers de morts, a répondu quelques dizaines ou centaines de milliers d'autres morts. Pour aujourd'hui arriver à une situation où bon, chacun peut juger, hein, du bilan, d'accord, de ce qui se passe quand on décide de répondre, voilà, à la violence par une autre violence. Donc là, évidemment, c'est de la géopolitique, hein, ça se joue à l'échelle de nations. Malgré tout, voilà. Et ce qui est encore peut-être plus triste, hein, c'est que c'est un pays chrétien qui a choisi cette voie-là. D'accord? Alors, bon, moi je ne peux pas juger les gens, bien sûr, hein, face à, ok, l'émotion, la colère, tout ce qu'on veut, hein, on comprend bien tout ce qui s'est passé, et le désir de répliquer avec force à une agression. D'accord? Et s'il y a un domaine, j'ai envie de dire, où nous devons être intelligents et attentif, c'est peut-être celui-là. Parce que notre société, alors, bon, vous savez que la loi sur le séparatisme est passée il n'y a pas très longtemps, on ne peut pas parler de politique, hein, dans l'Église. Bon, malgré tout, on voit bien que dans ce texte, que notre regard sur la société n'est pas neutre. D'accord? Enfin, ici, on appelle à voter pour personne, évidemment. Malgré tout, on n'est pas, on le voit bien, nous ne sommes pas à l'extérieur de la société. Vous voyez, cette loi sur le séparatisme, quelque part, enfin, elle ne nous inquiète pas. Alors, par certains côtés, enfin, nous ne voulons pas nous séparer du monde. Ce texte nous le montre bien. Nous ne nous séparons pas. Mais nous sommes dedans avec des valeurs qui viennent pas de la même source. Nous, nos, ce qui nous permet de distinguer le mal et le bien, cette source, elle est en Christ. C'est le Christ crucifié qui est notre chemin. Et ce texte nous dit, vous devez porter cette différence, la porter dans le monde, sans chercher à l'imposer, mais non plus sans y renoncer. Alors bien sûr, oui, j'ai envie de dire la politique. C'est de mettre les gens, de leur donner un objectif commun, c'est on va dire, de rassembler. Alors bien sûr, nous pouvons participer en partie à ce rassemblement. Nous faisons partie d'une société. Et on verra au chapitre suivant, d'ailleurs, hein, Paul nous encourage à jouer le jeu de cette société, à en respecter les lois, à en respecter les règles. À prendre notre part de son fonctionnement et de le faire en toute, on va dire, honnêteté. Et pourtant, nous ne devons pas nous laisser modeler par les valeurs qui peuvent être apportées, d'accord? Des valeurs de compétition, je sais pas, de prédation, le fait d'utiliser les autres, le fait de juger les autres, le fait de, effectivement, à certains moments, de rentrer dans un rapport de violence ou d'identifier des ennemis que nous aurions à combattre. Ce texte nous dit, non, nous, Nous prions pour nos ennemis. Nous, nous leur faisons du bien. Parce que ce choix de faire du bien, eh bien, c'est une puissance de transformation. Parce qu'une fois de plus, la source, c'est que Dieu a tellement aimé le monde. Nous, et puis les autres. Tous les autres. Donc qui peut être mon ennemi si Dieu l'a aimé? Et Dieu nous demande, ben ok, toi aussi tu vas aimer. Et alors là, le texte, la citation qui est de mettre des charbons ardents sur sa tête, on comprend bien qu'il s'agit d'une puissance de transformation. C'est ce bien qui transforme. C'est ça le chemin que Dieu nous propose, de transformer par le bien et de ne jamais, jamais choisir le mal comme réponse. Et je veux terminer avec donc ce verset que Anne-Marie a cité dans sa prière. Partager la joie de ceux qui sont dans la joie, pleurer avec ceux qui pleurent. Je veux terminer avec ça parce que c'est un verset en fait qu'on a personnellement j'ai souvent en tête. Hein. Évidemment, peut-être, j'ai envie de dire malheureusement, peut-être plus souvent quand on est confronté à la souffrance de nos frères et sœurs, on va penser à ce verset qui est de effectivement on va aller partager la souffrance. Et bon, ce texte nous parle aussi de la joie. Alors peut-être n'oublions pas cette dimension-là. Donc je vous l'ai dit, ce texte nous invite à nous relier les uns aux autres. C'est ce que Paul aussi a prié tout à l'heure. On est liés les uns aux autres. Liés par ces sentiments, ces émotions, ces moments que nous partageons ensemble. Je trouve une très belle définition de ce que c'est que la fraternité, de vivre ensemble, de partager tout cela sans chercher à imposer quelque chose, mais en étant là pour donner et pour recevoir. Alors que le Seigneur puisse nous aider, hein. C'est un texte très riche, on l'a un peu survolé, je sais pas combien de temps, je pense que j'ai été un petit peu long, mais on voit bien que c'est un texte qui nous parle de chaque moment de notre vie, de chaque façon que nous avons d'être en relation avec les autres. Que le Seigneur puisse se servir de ces versets pour renouveler notre marche avec lui. Merci.